Dans mon exposé, les enquêtes orales de Revelli, l'RCP Autre en France, les recherches pluridisciplinaires des années 80-2022 en Italie, points communs et héritage exploité. Je vais essayer de montrer un peu des caractéristiques entre guillemets scientifiques des différentes méthodes et de voir si on peut les comparer en partant du. Je reprends le parcours de Revelli et comment il arrive à utiliser les sources, c'est-à-dire soit les sources écrites, soit les sources orales, qui sont les sources fondamentales, comme tout le monde ici sait, de ce type de recherche. Alors, en 1960, pour écrire La Strada del Davai, qui est son troisième livre sur la guerre de Russie, il décide de recueillir des témoignages directs des survécus. Il commence à passer d'une grange à l'autre dans les collines de Cuneo. Il dispose seulement des fins de semaine, donc il exclut les vallées et les montagnes hautes et les langues. Il va recueillir 40 témoignages, chacun entre 3 et 9 heures, en utilisant la sténographie, parce que c'était quelque chose qu'il avait appris et il avait même un brevet en sténographie. Il craigne à ce moment-là que les magnétophones intimident les interviewés en raison de la dureté des témoignages qui décrivent l'horreur vécue. Pour la publication, il donne la précédence aux narrations des prisonniers qui ont survécu. Il y a 29 témoignages qui sont particulièrement durs. Ce sont tous des paysans, sauf 3 officiers, dont 2 des lieutenants, un médecin, et puis il y a un capitaine, Beppe Lamberti, qui est une figure un peu particulière, qu'il tient absolument à rencontrer. Les récits des prisonniers sont plus crus de ceux de la guerre, au point d'arriver à estomper chez les survécus les souvenirs terribles du front. Il y a quelques rarissimes images positives de solidarité entre paysans, la charité d'un peu de nourriture ou d'hospitalité de la part de quelques paysans russes pauvres, encore et toujours des paysans. La guerre est un monde des paysans. L'Italie avait lu à ce moment-là Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern e I lunghi fucili di Cristoforo Moscioni Negri. Lorsque les autorités ne parlaient pas, pour des raisons politiques, des milliers et milliers de disparus de Russie, dont on attendait encore des nouvelles dans certaines familles. La Strada del Davai, parue en 1966, a du succès et il sera réédité. Son écriture a confronté Nuto Revelli directement dans ses rencontres aux alentours de Cuneo avec le contexte de la vie paysanne des années 60, ses survivances confrontées aux changements de plus en plus rapides, pas toujours positifs pour les intéressés. L'Italie est alors en plein boom économique, le plus important de toute son histoire. Après cette expérience avec les sources orales, dans les livres suivants, L'ultimo fronte, paru en 1961, Nuto Revelli passe à un autre type de source, les lettres du front. Il avait commencé à recueillir des lettres des disparus dans la préparation du livre précédent, qu'il avait cité dans son introduction comme une sorte de renforcement et de confirmation des témoignages, en les restituant après aux propriétaires. Les familles vont lui confier presque 6000 lettres. C'est les témoignages du rapport de confiance que les paysans vont établir avec lui et qui vont lui permettre plus tard d'écrire Il mondo dei vinti et l'anello forte. Il va récupérer 4000 autres lettres qui arrivent à sauver de la destruction. Il veut recueillir le maximum de témoignages en sauvant lettres et journaux personnels et en écoutant les témoignages de leurs familles. Mais il veut aussi écrire un livre qui soit un témoignage qui représente ces 10 000 lettres. Dans celui-ci, il en sacrifie les 2/3, mais il utilise tous les témoignages des familles de morts et des portés disparus. Les lettres des portés disparus à leurs familles essayent de les rassurer, parlent surtout des souvenirs familiaux, de la vie d'avant la guerre et de celle qu'on voudrait retrouver. La plupart essaient de ne pas montrer les désarrois et les conditions sans espoir de leur situation. Quelqu'un demande de la nourriture ou des vêtements chauds. En Italie, les journaux, pendant la campagne de Russie, ne parlent pas des milliers de pertes, des prisonniers, des sous-équipements de l'armée, de ses difficultés d'approvisionnement, des conditions climatiques prohibitives de l'hiver russe, de l'attitude hostile des Allemands. Les mères, les épouses, lui témoignent de leur désespération et de celle de leur famille. Les départs, l'attente des nouvelles, la poste qui va s'interrompre, les silences qui se prolongent, les lettres envoyées qui reviennent, l'absence des nouvelles, l'angoisse qui se prolonge pendant des mois et des années. La Cunense, comme la Julia, différemment située par rapport à la Tridentina dont faisait partie Revelli, n'arrive pas à forcer l'encerclement russe. Les pertes sont énormes. Nuto Revelli se les représente par rapport au territoire qu'il connaît bien et qui est en train de traverser pour ses entretiens. Dans les témoignages directs des familles des soldats morts et disparus, il y a le drame qui les a frappés l'un après l'autre. C'est toute une génération de paysans qui a été détruite et la vie de beaucoup de leurs familles avec. Dans les années 60, les années du boom économique, cette perte qui a conditionné leur destin familial pèse encore dans l'âme de ceux qui ont mis des années à abandonner l'espoir et qui n'ont pas toujours eu de réponse sur le destin des hommes qui ont vu partir. Sur les disparus, on pourra avoir accès aux archives russes seulement en 1991. Dans les années 70 et 80, on commence à parler de l'existence des fosses communes. La plupart des prisonniers italiens ont été faits en 1943, lorsque la division italienne a été encerclée par les Russes et seulement la Tridentina est arrivée à rompre l'encerclement à Nikolaïevna. Les autres ont été soit détruites, soit faites prisonnières. Le livre est encore un succès, qui paraît, nous avons dit, en 1971. Nuto Revelli, alors fatigué par la guerre, des mémoires des horreurs dans lesquelles il a été replongé par l'écriture de ses livres. Les contacts commençaient dans le printemps 1941, comme Marco Revelli nous l'a appris, avec son premier commandement revenant de l'Académie de Modène, a duré pendant toute sa période et a marqué sa vie. 30 ans après, ses contacts avec le monde rural se sont multipliés, un monde strictement connecté à la guerre, qui dans les années 60 emporte encore les traces, des familles détruites. Dans la seule province de Cuneo, ne sont pas revenus 14 000 hommes, plus de croix que de granges et de fermes dans cette région, dit-il. Et la guerre dans ces territoires n'a pas seulement été celle du front. Les histoires familiales qu'il a recueillies le prouvent. Des cas comme celle de la famille d'Anna Castellina ne sont pas rares. Elle lui raconte de ses trois fils, Giuseppe, 24 ans, porté disparu en Russie, Pierino, 23, revenu de Russie, assassiné par les fascistes à San Bernardino di Cervasca, Agostino, 20 ans, partisan, tué à coups de bâton par les Allemands dans la cour de la ferme sous les yeux de sa mère. Il veut décrire par les témoignages qu'il va recueillir la réalité qui est restée dans les territoires de Cuneo dans l'après-guerre, les réactions et les attitudes des paysans face à la vie qu'ils ont dû affronter, au travail dans les champs qui manquaient forcément de bras, au changement des années 60, à la révolution culturelle en cours. La méthode qu'il a mise à point, lui vient de ce long apprentissage du terrain rural qu'il a fait pendant 30 ans. Plus de sténographie, mais un gros magnétophone en évidence sur la table qu'il demande ouvertement d'accepter. Il continue en partie à se faire accompagner par quelqu'un de ses médiateurs, des hommes et des femmes connus par lui et par ses interviewés, un espèce de garant. Mais souvent, il est seul. Maintenant, dans les vallées autour de Cuneo, il est connu et respecté. Le monde paysan a compris l'utilité de son travail. On lui parle ouvertement et volontiers, longuement. Il parle en dialecte et invite ses interlocuteurs à en faire autant. Il a mis à point un schéma qui applique toujours. Une approche pour expliquer l'essence de son enquête en cherchant de comprendre qui est devant lui. Il lui demande de suivre une chronologie dans son récit, mais il le laisse aussi parler en liberté. Il mettra de l'ordre par la suite. Les interviews peuvent durer entre 1 et 4 heures. Quelquefois, il revient et on arrive à 12 heures d'enregistrement. Il ne les interrompt jamais. Il cherche ici et là de reconduire les récits sans jamais forcer. Il a dans sa tête une logique précise, une série très vaste mais précise d'arguments, mais il ne les force jamais. Son but, en effet, est multiple. Garder des mémoires précieuses sur un monde en train de disparaître, il est certain de cela, raconté par les protagonistes dans la façon la plus spontanée, trouver les moyens de les transposer dans l'écriture d'un livre pour les faire connaître à tout le monde. Il est alors un écrivain reconnu, qui a déjà son actif 4 livres, est un bon écrivain. Alors il écarte soit la solution d'écrire en dialecte, le piémontais est une langue écrite dans les différentes variantes, avec traduction italienne à côté, soit de transposer entièrement les récits en italien. Il décide alors de les transposer dans un italien parlé, direct, et laissant dans les textes des phrases en dialecte, avec les traductions dans les notes. Il aura ensuite un livre très lisible, spontané, avec une infidélité seulement linguistique, comme il dit Giuseppe Mendicino, qui est un de ses meilleurs connaisseurs, et des contenus conformes à la façon rigoureuse au témoignage. Le style Revelli, nouveau, fera le succès en Italie, soit de Il mondo dei vinti, soit de L'anello forte. Il y a certainement un style Revelli. Est-ce qu'il y a aussi une méthode Revelli? Il a mis à point sa façon de travailler à travers ses livres précédents. Il sait bien d'un côté que tout le matériel recueilli dans un souci de mémoire ne peut pas être transposé, mais que le choix forcé qu'on a fait pour l'écriture doit transmettre le même message des témoignages recueillis, parlés comme écrits. Il faut également que le matériel reste en entier pour le futur. Il connaît l'importance d'un travail organisé, mais aussi de mettre à disposition d'autres lecteurs quelque chose de bien conservé et d'utilisable. Conscient des différences importantes, il partage la province de Cuneo en plaine, montagne, colline et langue. Il essaye cette fois de couvrir tous les territoires. Fait ses interviews dans la fin de la semaine, en choisissant les périodes et les heures où les paysans sont plus libres de leurs travaux. Pour les langues, en particulier, sa base du départ est Verduno, où tous les ans, il passe ses vacances en famille. Chaque fois, en revenant de ses entretiens, il transcrit ses interviews. Chaque bobine est numérotée, inventariée, en marquant date, nom, interview et lieu, comme Marco Revelli nous a expliqué ce matin. Les similitudes et les rassemblances avec un travail d'ethnographe, ethnologue et anthropologue, tel qu'on pouvait l'apprendre dans ces mêmes années, sont multiples et saisissantes. L'usage du magnétophone, la façon standard de mener les interviews, le recours à des médiateurs, l'usage systématique d'un carnet après chaque rencontre, l'attitude vis-à-vis des interviewés, le respect pour le rythme de vie de monde qu'on veut décrire. On apprenait aussi aux futurs ethnologues et anthropologues que la meilleure école était le terrain, qu'il fallait en faire beaucoup et ne pas être pressé. Les africanistes en savaient quelque chose. Les terrains non européens où les méthodes d'enquête avaient été mises à point étaient des terrains qui duraient quelquefois une vie ou presque. Pour les terrains européens sur lesquels la recherche des ethnologues et des anthropologues a démarré dans ces mêmes années, pour différentes raisons, on a mis de côté plusieurs de ces principes pourtant enseignés dans les cours. Les préoccupations étaient autres. D'abord, le temps exigé par cette approche au terrain de recherche ne collait pas avec beaucoup d'exigences académiques. Il y avait aussi d'autres soucis, comme celui d'exploiter les ressources de la recherche multidisciplinaire en utilisant les acquis d'autres disciplines, en sciences humaines ou en sciences exactes. On expérimentait et on ouvrait de nouvelles voies. On voulait aussi mettre à point des approches permettant de rentabiliser le temps à disposition, mesuré surtout en mois et en quelques années au maximum, les ressources humaines disponibles, surtout des jeunes chercheurs et même des étudiants en fin de formation, par rapport à des crédits dont l'entité pouvait, dans certains cas, être important, mais toujours plutôt limitée dans le temps. Ces remarques sont valables pour la France, mais pas pour l'Italie, qui à cette époque n'avait pas de doctorat ni une formation visant la recherche, dans un contexte général de mode de financement qui restait le même, celui-ci maintient l'Italie comme pays constamment à l'avant-dernière place dans les budgets de l'État pour la recherche. Et dans ce budget, les sciences humaines ont la partie moindre. Est-ce que cela peut expliquer au moins en partie l'attitude du monde académique envers les travaux de Revelli sur le monde rural, en particulier et en France notamment? En France, Le Monde des Vaincus est publié par Maspero. Il a un succès de niche et certainement pas dans les universités, nous l'avons vu. L'article de Claude Ambroise du 17 août 1980 sur Le Monde, qui nous a signalé Maurice Aymard, est la seule retombée importante, remarquable mais isolée. Mendicino reconstitue ce rapport entre celui qui avait fait connaître en France Chacha et Mario Rigoni Stern et cite leur échange épistolaire. Cet article plaît beaucoup à Revelli, qui lui écrit en lui faisant ses compliments pour avoir su le percer dans le profond. Tu es un intervieweur exceptionnel, formidable, il lui dit. Maspero aussi est frappé par Revelli. Dans ses romans Le temps des Italiens, le protagoniste, un lieutenant des chasseurs alpins, Mario, évoque clairement la figure de Nuto Revelli. Les recherches sur les lettres de Revelli conservées aux archives de la Fondation pourront nous révéler aussi ses rapports avec tous ses contacts français. Il réalise, alors là j'ai trouvé une chose, que le nombre précis des interviews change dans le sens qu'il y a quelques unités de différence. Et Silvia Giordano, qui a commencé à travailler dans l'archive pour la numérisation, pour la première numérisation dont Marco Levelli nous a parlé, m'expliquait que ça, c'est pour le fait que quelquefois on ne sait pas combien d'interviews il y a dans une bobine. Donc il faut vraiment, ils sont entrelacés, ils reviennent, donc il y a tout un travail de mélange qui doit être fait pour comprendre exactement. Mais ce n'est pas tellement important, hein, c'est juste pour expliquer un peu la mode de fonctionnement des sources. Pour la rédaction du livre, il en choisira 85 à publier dans les premiers et 107 pour l'Anophore. Forcément, ce ne sera que la publication de parties et des passages significatifs, choisis en fonction des moments historiques et des problématiques alors plus vivantes qui intéressent l'auteur. Ça, c'est normal. À distance de plusieurs décennies, il faut souligner d'abord la volonté d'avoir bâti un corpus qui va pouvoir être exploité ensuite. Les témoignages pour les premiers livres ont été recueillis entre 1910 et 1974 par les classements dont nous parlait Marco ce matin, c'est-à-dire avec une différence dans les classements des témoignages. Alors, il y a les 84 témoignages sur les migrations qui regardent surtout les rapports étroits et répétés avec le côté français. Et c'est sont de belles archives à découvrir. Les témoignages qu'on a recueillis pour la deuxième livre sont datés entre 1977 et 1982. Opportunément interrogées, ces sources peuvent répondre à beaucoup de questions. La Fondation Revelli s'est donnée comme but prioritaire l'organisation et la sauvegarde de ces archives, comprenant en plus que des archives orales, des archives photographiques, musicales et 55 mètres linéaires de documents cartacés produits en grande partie par Nuto Revelli même. Les archives orales, on les a déjà dit, il y a un nombre important d'heures d'interviews, en 39 bobines, etc. Ce sont les données que nous avons eues ce matin. Alors, les livres de Revelli sur le monde paysan correspondent bien à ses propos au moment de leur rédaction, mais donnent seulement un aperçu des possibilités de recherche potentielle des archives de la Fondation. Pour ce qui concerne les archives orales composées par les interviews faites par Nuto Revelli, la première préoccupation a été de les mettre à disposition du public, sur place d'abord, dans les sièges de Cuneo de la Fondation, ensuite après inventaire, comme on a dit ce matin, il était entrepris un travail de numérisation dans le but de fournir les clés d'accès à un public le plus large et plus différencié possible. Donc, soit des chercheurs, soit des gens tout simplement intéressés à connaître l'histoire de leur territoire, etc. Depuis 2016, Silvia Giordano, dialectologue, a commencé à écouter et numériser le matériel, les matériels audio des archives sonores, en intégrant les mots-clés identifiés utilisant les programmes informatiques qui étaient réalisés dans ce but par un informaticien, André Favini. L'individuation des thèmes fondamentaux d'organisation des interviews, dont nous parlait ce matin Marco Revelli, et des tags relatifs a pris 3 ans. Donc, ça a été un travail long, de mon côté, vraiment très profitable, parce qu'on s'est confronté dans un contexte, ça vaut la peine de le souligner ici, scientifique multidisciplinaire, composé par Marco Revelli, Beatrice Verri, Antonella Carpino, Silvia Giordano et moi-même. Donc, l'échange était réel. En réalité, on se proposait de terminer la numérisation des interviews faites par Revelli avant l'échéance de 3 ans du centenaire. Mais en réalité, le manque de fonds a interrompu pour l'instant ce travail. La numérisation correspond à un quart environ des interviews disponibles, donc une centaine d'heures, et a été appliquée aux interviews choisies pour écrire les livres. Tout ce qui a été fait jusqu'ici peut être utilisé par les chercheurs. Le projet Memoranda, qui a créé le musée interactif de Paraloupe, en italien, français et anglais, a ainsi pu être réalisé grâce à ça aussi. Toutes les archives sont consultables sur place à Cuneo tous les jours et le personnel de la Fondation est à disposition sur rendez-vous. Et sur les sites, on trouve les résultats d'un premier projet concernant l'archive qui avait été fait en 2015, Uomini e donne della Resistenza, qui avait aussi un peu servi de test pour voir comment on pouvait procéder pour le site. Alors, Nuto Revelli est considéré un des pionniers de l'utilisation des méthodes de l'histoire orale en Italie. Toutefois, même si dans les universités italiennes aujourd'hui il y a des cours et des laboratoires d'histoire orale, il existe une seule chaire de cette discipline à l'Université Ca' Foscari de Venise, dans le département d'histoire contemporaine, regroupement disciplinaire histoire, attribué à Alessandro Casellato, dont nous a parlé ce matin Marco Revelli, qui travaille depuis plusieurs années sur les acquis de Revelli, notamment appliqués à l'histoire de la résistance. La situation des enseignements d'anthropologie et ethnologie dans les universités italiennes dans les années où parurent les ouvrages de Revelli sur le monde rural explique la non-communication substantielle entre ces disciplines et Revelli. La figure d'Ernesto De Martino domine l'histoire et le développement de ces disciplines entre l'avant et l'après-guerre. Lié à Benedetto Croce, il s'intéressa à l'histoire de la religion et à tous les aspects du folklore. Son terrain fut le sud de l'Italie. Son école forma 2 générations d'anthropologues et ethnologues successifs qui en développèrent ses acquisitions en directions différentes, mais restèrent liées à ses intérêts, tout en y intégrant des références autres, comme celle à Antonio Gramsci. Ses livres, considérés des chefs-d'œuvre dans son domaine, et les débats sur ses œuvres étaient restés la référence principale et souvent unique de l'anthropologie italienne. De celle qui fut appelée la scuola di Cagliari, avec Alberto Maria Cirese dans les années 50, migrèrent ceux qui devinrent les titulaires des enseignements d'ethnologie et anthropologie dans les universités de Rome, Florence, Sienne et Pérouse, en formant la génération successive. Dans les années 60 et 80, De Martino meurt en 1965, Alberto Maria Cirese, Tullio Seppilli, Pier Giorgio Solinas, Pietro Clementi, Luigi Lombardi Satriani, mais on pourrait en citer des dizaines d'autres, même plus jeunes, doivent leur formation et leur parcours académique à cette matrice. Dans les années 70, avait aussi fait sa comparution en Italie l'anthropologie culturelle venant des USA par Carlo Tullio Altan. Ses ouvrages ont un certain succès, mais il s'intéresse du début au comportement urbain, au contraste générationnel, au comportement politique. Il envoie ses élèves aux USA, il apprend à apprendre les pratiques de terrain, ou en France, où il est intéressé plutôt par certains acquis de l'école des annales, surtout la multidisciplinarité, les nouvelles disciplines et la longue durée. C'est donc plutôt avec les recherches qui étaient alors en cours sur le monde rural en France qu'on peut essayer une comparaison avec le travail de Revelli, tout en rappelant qu'il n'y a pas eu de communication directe entre les deux. Si certains scénarios de ruralisation et monde paysan confrontés à des changements dans beaucoup de comportements et pratiques collectives se rassemblent alors dans les deux pays, quoique, comme nous verrons, dans des situations et héritages politiques bien différents, nous verrons aujourd'hui, cet après-midi, le contexte de la recherche est forcément complètement différent. L'acronyme définissant ces importantes recherches est RCP, c'est-à-dire Recherche coopérative sur programme du CNRS. Le nombre d'acronymes, 51, qui apparaît dans l'organisation, les financements et les déroulements de l'RCP permet d'évaluer les nombres d'institutions concrètement concernées et aussi de l'importance que l'État français attribue à ces opérations et son attente vis-à-vis des résultats. L'investissement financier et politique était motivé par l'importance des changements en cours dans le monde rural. On écouta donc les sollicitations venant des institutions proposées et on en créa de nouvelles en fonction des besoins identifiés. Les acteurs scientifiques principaux de cette mise en place furent sur 20 ans les noms parmi les plus brillants qui avaient alors la France en sciences humaines et sociales, qui venait d'être défini alors en acronyme aussi SHS, et dans les sciences exactes impliquées, en particulier mathématiques, statistiques, biologie, médecine, agronomie. Ils guidèrent directement ou pas les travaux d'une foule de jeunes chercheurs au début de leur carrière, souvent juste issus de leur doctorat ou quelquefois encore en train de le terminer, provenant de différents centres de recherche ou embauchés sur contrat par ceux-ci. Seulement l'RCP sur PLOS V, le premier de ces chantiers, va en employer une centaine. Chacune de ces RCP a une durée moyenne de 3 années. Elles étaient toutes censées produire d'abord des rapports réguliers exhaustifs, ce qu'il faut faire régulièrement. Des années 60 aux années 80, PLOS V dans le Finistère, Aubrac, les Châtillonnais, dont Minot, les Baronnies, dont on a parlé aussi ce matin, la Corse et la Margeride, furent des terrains d'enquête scientifique pensés comme des nouveaux espaces de la connaissance. Elles furent menées de façon différente, mais on y retrouve la volonté d'appliquer les méthodes mises à point par les différentes disciplines appliquées, censées travailler ensemble, chacune dans son point de vue et par ses savoirs et ses compétences. Motivées par l'intérêt vers les changements en cours dans les campagnes françaises, elles vont permettre l'application d'acquisitions dans différents champs de la connaissance. La conviction politique que le développement de la recherche contribue à augmenter l'importance et le poids du pays, propre au gaullisme, va de pair avec l'intention d'appliquer les pratiques interdisciplinaires propres à l'école des annales. L'interdisciplinarité n'a pas pour tous les mêmes significations. Elle sera appliquée différemment, mais revendiquée dans tous les programmes et les rapports. Si on se réfère à la différence que le GOF va faire dans les années 70 entre interdisciplinarité et multidisciplinarité, c'est plutôt la deuxième qui l'emporte. Le GOF précise qu'il faut entendre par la première l'application concertée à la recherche des méthodes des disciplines différentes, produisant des faits de nouvelles disciplines, telles l'anthropologie historique. Et par la seconde, l'application de plusieurs disciplines à un même sujet de recherche, dont un exemple qui sera fortement développé par la suite va être constitué par la famille, sur laquelle vont se concentrer plusieurs recherches de matrices disciplinaires différentes. Plusieurs disciplines vont dans la pratique se côtoyer sur le terrain des RCP, chacune gérée par des chercheurs provenant de laboratoires et centres de recherche différents, sans pourtant produire des interrogatifs sur d'éventuelles contaminations ou intégrations méthodologiques au moins déclarées. Ce sera après, dans un séminaire où la référence aux recherches du RCP de PLOS V sera un fil conducteur que l'historien André Burguière et l'ethnologue Françoise Zonabend seront amenés à se confronter sur cette question. André Burguière produira au sein de l'École des Annales les réflexions que nous connaissons en contribuant en matière déterminante à la fondation de la nouvelle discipline de l'anthropologie historique. Celle-ci va retrouver affirmation de son droit d'existence dans les séminaires de Joseph Bois, conduit avec lui par des chercheurs participant à une autre DRCP, celle de la baronnie des Pyrénées, comme Roland de Bonin-Dulot. On retrouve en effet la séquelle féconde d'RCP au cours des années 1980-2000 dans ces différents séminaires de l'École des études. Et même après ces années, Antoinette Fauve-Chamoux, historienne démographe, qui dans le RCP des baronnies partageait sa chambre d'hôtel sur le terrain avec l'ethnologue Roland Bonin, anime depuis 2004, toujours à l'école, un séminaire d'histoire de la famille. L'attention à la famille par les différentes disciplines impliquées est une des caractéristiques que toutes les RCP ont en commun. Si cela est un exemple des retombées scientifiques permettant d'évaluer les succès à distance des 40 ans du démarrage de ces recherches, reste le fait que les résultats produits sont pratiquement ignorés par la recherche contemporaine et les étudiants actuels. Ils furent pourtant consistants. Plosvet produit une quarantaine de rapports, 5 livres et de nombreux articles. Les autres ne furent pas en proportion moins fécondes. Il y a aussi des docufilms produits sur certains de ces terrains. Plus difficile d'évaluer les retombées sur les territoires constituant les terrains d'enquête. Elles aussi apparaissent très variées et même des signes différents. Une production importante est constituée par les interviews et les photos faites par les chercheurs au cours de toutes ces années de recherche. Il pourrait constituer des archives potentielles vraiment importantes, mais des faits inexistants, car jamais considérés en tant que tels. Si le matériel produit nous consigne les résultats de la recherche par ceux qui en furent les auteurs, le matériel brut, oral et visif pourrait constituer un point de départ pour d'autres recherches, comme il arrive pour les archives produites par Nuto Revelli. Avec la différence qu'elles ont été organisées en même temps qu'on les produisait comme base de mémoire. Les RCP ont plus ou moins consciemment avalé la conviction que c'est aux professionnels de piocher dans la mémoire. Le maniement de la mémoire revient uniquement aux professionnels et que c'est à travers leurs filtres, les rapports, les livres, les articles, que la mémoire peut être connue et devenir propriété de tous. Dans ce cas, il est évident que la vision de Revelli est différente de celle des universitaires et des professionnels de la recherche. Avec un recul de plus de 40 ans, qu'en pensons-nous de cette situation? La conception de la recherche dans les cadres institutionnels italiens qui a déterminé son destin et ses résultats sur les périodes que nous avons vues pour la France nous empêche une véritable comparaison institutionnelle. Si les résultats des principes appliqués par les RCP n'ont pas été connus en Italie, on peut par contre affirmer que les principes de l'application de la multidisciplinarité et de l'interdisciplinarité depuis plusieurs années y constituent une référence sollicitée et attendue dans les projets de recherche et les programmes des cours universitaires, spécialement dans les sciences humaines, mais dont la mise en pratique reste en fait un souhait. Pas de projet qui se révèle multidisciplinaire dans la pratique et pas de véritable place pour les nouvelles disciplines, anthropologie historique en tête. Après des années d'absence où il n'y avait pas d'enseignement de cette discipline quand on n'arrivait pas à la placer dans les cadres institutionnels des enseignements, à cheval entre les regroupements d'histoire ancienne, médiévale, moderne et contemporaine et les regroupements des disciplines démo-ethno-anthropologiques, maintenant, il y a plusieurs cours définis d'anthropologie historique. Ils sont donnés, selon les universités, par des professeurs d'histoire, dans la grande majorité, ou d'anthropologie, en l'appelant aussi ethno-histoire. Mais l'anthropologie historique n'est pas vraiment considérée une discipline avec ses intérêts et ses méthodes propres, mais plutôt une façon de pratiquer l'une ou l'autre des deux disciplines qui contribuent à en définir l'appellation. Alors, dans les années 90, j'ai collaboré avec un groupe d'architectes urbanistes de la faculté d'architecture de Florence, intéressé par les résultats du projet Identité urbaine en Toscane que j'avais dirigé à l'Institut européen de Florence entre 85 et 89, et par la méthode d'anthropologie historique que j'avais appliquée dans les milieux ruraux des langues au Piémont. Alors, une recherche collective de 6 chercheurs sur 6 petites villes de Toscane qui avaient produit ce livre, une exposition et de nombreux articles. Convaincu des bienfaits potentiels de la multidisciplinarité, de la nécessité de la collaboration avec les sciences humaines pour un aménagement du territoire durable, ils avaient assimilé plusieurs acquis de l'école des Annales. La longue durée est un des concepts de base de l'école territorialiste que nous étions en train de fonder. En 2001, ouvrir les cours pour la laurea triennale d'urbanisme à Empoli. En 2004, ouvrir le master, qui s'appelle en Italie laurea magistrale, en urbanisme. Les cours d'anthropologie historique de l'habitat ont été du début des cours fondamentaux obligatoires à la dernière année de master. Premier cours d'anthropologie historique activé en Italie, en restant l'unique pendant plus de 10 ans. J'en suis restée la titulaire jusqu'en 2020, lorsqu'il fut fermé définitivement suite au changement d'adresse scientifique des cours d'Empoli. Les étudiants y apprenaient les bases de la méthode de la pratique historique, aboutissant entre autres à la reconstitution des familles, celle de la méthode et la pratique ethnologique qui était appliquée dans des travaux de groupe fondés sur la pratique de terrain, dont les recueils des interviews, et l'usage des sources écrites, connaissance des contenus et pratiques des archives. Entre 2004 et 2020, le cours a été fréquenté par 170 futurs urbanistes, produisant une centaine de recherches collectives sur les terrains toscans et 7 thèses de master d'anthropologie historique de l'habitat sur différentes réalités dans le nord, le centre et le sud de l'Italie. Cet intérêt manifesté par ce type de formation et d'expérience, loin des sciences humaines et sociales, est motivé par l'utilisation qu'on peut en faire. L'application de la multidisciplinarité et de l'interdisciplinarité reste en fait marginale dans la formation en sciences humaines et sociales, en Italie certainement et en France au moins partiellement, malgré les déclarations qui le veulent au centre de la recherche. En Italie, l'anthropologie historique produit par excellence dans l'interdisciplinarité, qui a depuis des années démontré sa spécificité, n'a pas en fait une unité disciplinaire. Elle semblerait par contre revêtir un certain intérêt dans une recherche finalisée, par exemple, à l'aménagement de l'habitat. L'intérêt manifesté par les urbanistes de l'école territorialiste d'Empoli et les travaux qui ont été produits ne sont pas un cas isolé, et ça, je vous introduis, comme il va nous expliquer aussi Sam dans sa communication qui va suivre.